Nous sommes des croisés, en fait, ils nous confondent avec l'Europe, hein, avec l'Europe médiévale. Enfin voilà. Bon alors, passons maintenant à une autre controverse, c'est celle du pélagianisme. Donc elle qui a rien à voir avec un problème, on pourrait dire, c'est plus une question de plus une question spirituelle ou religieuse que politique ou sociale.
C'est là qu'il est allé en Angleterre, Saint-Augustin.
Mais c'est
Hein?
pas le même en fait.
Ah, c'est pas le même
Ouais,
Augustin?
C'est Saint-Augustin de Canterbury
oui,
ou
c'est ça.
Ah
Augustin de Canterbury, c'est un peu après.
mais c'est contre Pélage aussi.
Ah,
Je suis sûre
alors oui. Alors il y a parce que
c'était.
Pélage était un moine anglais, un moine celte même, je crois. Et mais alors il y a eu, alors il y a des Pélages, il y en a eu plusieurs. Il y a même un pape qui
Ah
s'appelait comme
aussi,
ça.
oui.
Alors, donc en tout cas, Pélage, qui est un moine anglais, avait eu un disciple qui s'appelait Célestius et qui s'était établi à Carthage, à l'époque de l'épiscopat de Saint-Augustin, en 410, après le sacre de Rome. Et donc, Augustin découvre cette doctrine qui annule. Si on peut dire, la sotériologie chrétienne, puisqu'elle affirme qu'on peut se sauver par ses mérites et non plus par la grâce. Alors, pour les moines, évidemment, c'est bien, puisque chez les moines, il y a énormément de pratiques ascétiques, pénitentielles, etc. Donc, ils avaient un peu conscience que enfin, c'était pas la peine de faire tout ça si on est sauvé par pure grâce. Donc quand même, ça avait du mérite de par exemple, de passer son carême dans un baquet d'eau froide ou des choses de ce genre. Donc c'était quand même bête que ça n'ait pas d'effet. Et alors voilà, donc il défendait cette idée que c'était tout l'accumulation de nos mérites qui faisait notre salut. Et évidemment, ça allait un petit peu contre un certain nombre d'affirmations de saint Paul. Alors. Pour les Pélagiens, le Christ était un peu, n'était pas tant l'auteur de notre salut que le modèle de notre salut, c'est-à-dire celui qu'il fallait imiter. Un peu. Alors la réponse de Augustin, c'était de se dire, mais le Christ, on le rétrograde au rang d'un héros païen, d'une, je sais pas moi. De Monsieur Sévola ou je sais pas qui, de ces innombrables exemples-là qui soutenaient la moralité qui enthousiasmaient les jeunes romains. Et vous voyez le danger toujours avec le christianisme, c'est de ramener la nouveauté du christianisme à du déjà connu, à du déjà su. Alors, c'est évidemment le problème des Juifs de l'époque de Jésus, des pharisiens, qui essayent de le faire rentrer dans les cases de ce qu'ils connaissent déjà, et donc qui n'y arrivent quand même pas très bien. Et c'est le même problème avec les païens, qui vont se dire, bah, finalement, le Christ, c'est comme nos héros, comme nos dieux, etc., etc. Donc, on passe à côté de sa nouveauté, de sa vérité. Et vous vous souvenez de la phrase de saint Irénée qui disait: S'apporte en lui-même, il apporte toute nouveauté. Et alors là, on manque en quelque sorte, vous voyez, on tâche de faire rentrer le nouveau dans l'ancien. Et Augustin se rend bien compte que le Christ n'est pas réductible à une figure simplement de héros païen, de modèle, de sorte de Hercule chrétien, bon, etc. Et. Comme dit, et ça, il n'a pas beaucoup de difficultés à s'appuyer sur saint Paul, puisque les écrits de saint Paul transpirent la priorité de la grâce sur le mérite, d'une certaine manière, sur les œuvres, pour la bonne et simple raison que saint Paul est passé par ça, hein, par l'expérience que sa conversion, ce n'est pas le fruit de ses efforts, mais que c'est une pure grâce qui lui est arrivée sur le chemin de Damas. Et Augustin était d'autant plus apte à comprendre cela que lui-même a vécu un cheminement, enfin une sorte de, je dirais pas de chemin, là, ça serait peut-être de sentier de Damas à sa mesure, mais qui était quand même assez semblable. Hein, donc, voilà. Alors, le résultat du pélagianisme, c'est que la croix était vidée de son sens, de sa puissance. C'est la réduction à néant de la croix du Christ, comme dit saint Paul. 1 Corinthiens 1, 17. Alors, Augustin, fidèle à sa méthode, va écrire des opuscules pour répondre aux pélagiens, dont notamment un opuscule qui s'appelle De peccatorum meritis et de baptismo parvulorum, des mérites des pécheurs et du baptême des petits-enfants. Parce que, évidemment, l'idée, c'était aussi que le baptême, ça se mérite. Tandis que la pratique déjà enracinée du baptême des petits-enfants, ça va contre le pélagianisme, parce que là, c'est bien la priorité de la grâce sur tout acte de celui qui reçoit le baptême. Alors, Augustin dira que la grâce est, il y a une nécessité de la grâce qui doit précéder la volonté humaine et du baptême pour participer à la victoire du Christ sur le péché. Donc, il y a une priorité de la grâce à travers le sacrement. Et dans un autre écrit qui s'appelle De Spiritu et Litera, de l'esprit de la lettre, et dans le De Natura et Gratia, de la nature et de la grâce, Augustin précise la relation entre la loi et la grâce. Il dit « L'accomplissement des commandements sans la grâce ne justifie pas, et la grâce ne s'oppose pas à la nature, mais la guérit de ses blessures. » Donc la grâce ne nous dénature pas, mais au contraire, elle va nous renaturer, parce qu'elle va nous donner une nature intègre. Donc notre nature, c'est pas d'être mauvais, c'est d'être bon, et précisément, on vit d'autant plus dans notre nature qu'elle a été guérie par la grâce. Voyez. Donc grâce et nature ne s'opposent pas, mais vont plutôt ensemble. Et d'autre part, l'accomplissement des commandements ne mérite pas pour la vie éternelle. Alors, on peut mériter sur le plan de naturel. On fait des choses bien, et bien on mérite d'être loué, mais c'est pas suffisant pour nous faire passer de notre condition de créature à une condition divine. On pourra faire tout le bien de la terre, comme dit saint Paul, on pourrait, vous savez, quand il dit qu'on pourrait faire tout, se faire même couper en morceaux, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire si je n'ai pas la grâce, cela ne me sert de rien. Autrement dit, quelqu'un qui serait parfait, même parfait au sens qu'il n'aurait pas connu le péché originel, qui aurait une nature parfaite, qui vivrait comme un saint parfait, eh bien, n'aurait pourtant aucun droit à être surnaturellement élevé à la condition divine, à être divinisé, à devenir fils adoptif de Dieu. Ça, c'est une pure grâce. Alors, que Dieu donne sa grâce plutôt à ceux qui agissent bien, ça paraît logique, mais, et d'ailleurs, on verra que au XVe siècle, au XIVe, avec le nominalisme, on aura ces idées que Dieu pourrait justifier, enfin, pourrait élever à l'état surnaturel des injustes, et refuser sa grâce, la grâce du salut, la grâce surnaturelle, à des justes. Et ça, c'est les Calvins et autres. Oui, ah, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, vous comprenez bien que Augustin, en se heurtant aux Pélagiens, va tellement insister sur la grâce que, d'ailleurs, on le sentira bien, quand je faisais mon cours sur la grâce, on sent bien qu'à certains moments, Augustin est tenté par la double prédestination, mais il s'y refuse, Parce que là, il se dit, mon système va trop loin. Luther lui-même sera tenté par ça, puisque lui aussi, en bon disciple d'Augustin, il va insister sur la priorité de la grâce par rapport aux œuvres. Et il s'y refusera aussi, parce qu'il se rend bien compte que c'est trop contraire au christianisme. Mais Calvin, lui, il mettra les deux pieds dedans. Hein.
Il y a quand même une prédestination chez Luther,
non ? Non, il n'y a pas de prédestination. Non, non, il y a plutôt y a une pure passivité par rapport à la grâce. Si Dieu ne me justifie pas, j'ai beau faire ce que je veux, je ne serai pas justifié. Alors, dans le catholicisme, il y a quand même un rapport un peu entre les deux. Dieu a d'autant plus tendance à nous justifier qu'on fait quand même des efforts sur le plan naturel pour l'être. Mais vous voyez quand même que dans la conversion d'énormément de gens, on ne peut pas dire que ce soit leurs efforts d'avant qui les ont convertis. Hein. On a parfois l'impression qu'il y a une irruption de la grâce efficace et qui entraîne les gens. L'exemple le plus évident étant saint Paul, en fait. Encore que saint Paul était très religieux. Voilà.
Il me semble que chez Luther, il y a l'image du manteau, la grâce comme un manteau qui tombe.
Oui, oui, exactement.
Qui est simplement extérieur.
Extérieur. En fait, la grâce ne transforme pas. Oui, elle ne transforme pas de l'intérieur. Elle est non-imputation d'une faute. Donc, autant dans la perspective catholique, c'est une sanatio, c'est une guérison. Autant dans la perspective luthérienne, c'est plus juridique, c'est une non-imputation d'une faute. Donc ça ne nous transforme pas, mais ça couvre le péché, ça couvre la faute. Voilà. Et donc et pourquoi pensait-il ça? Parce qu'il confondait la concupiscence avec le péché. Et donc le fait de connaître des tentations, d'avoir un esprit tordu, comme on l'a tous, eh bien, pour lui, c'était le fait que l'on était pécheur, et donc que la grâce n'avait pas effacé le péché. Alors que la position catholique, c'est de dire que la grâce nous guérit du péché, mais notre nature étant blessée et partageant cette nature jusqu'à la parousie, on est tenté à nouveau de retomber. Mais ce n'est pas une fatalité, hein. Et précisément, le culte des saints au Concile de Trente, ça a été souligné pour montrer que si on, avec suffisamment d'humilité et d'effort, on peut éviter de retomber dans le péché. Ça, d'une certaine manière, c'est la partie de vérité du pélagianisme aussi. Parce que, alors, vous voyez, Augustin a tapé fort sur les pélagiens parce qu'il niait la grâce, mais d'un autre côté, on en a besoin un peu des pélagiens parce que il nous rappelle que la grâce, elle a besoin de la collaboration de notre nature. D'ailleurs, on trouve ça oui, dans l'épître de Saint Jacques aussi, qui corrige un peu l'unilatéralité de Saint Paul. Oui. Alors, qu'est-ce que nous trouvons encore? Augustin pense que la faute d'Adam n'est pas que personnelle, mais communautaire. Ça, c'est intéressant, parce que ça prépare la pensée de saint Thomas, qui dira que si elle est personnelle en Adam, elle est naturelle chez tous ses descendants. C'est-à-dire, elle affecte la nature. Elle affecte notre nature, pas notre personne, c'est pas nous qui avons péché. Mais comme dit Paul dans les Romains, tous nous avons péché en Adam, pas personnellement évidemment, mais en Adam ça veut dire parce que nous partageons sa nature. Il nous a communiqué une nature devenue pécheresse. Hein, c'est comme si on recevait de quelqu'un héréditairement quelque chose de vicié. Alors on transmet héréditairement une nature abîmée. malade. Et voilà, c'est ce que dit saint Augustin et que saint Thomas reprendra. Alors du coup, tout ce qui est issu d'Adam constitue pour lui la massa damnata, donc la masse condamnée. Et c'est une faute qui se transmet non seulement par imitation de ceux qui font le mal, mais alors par propagation. Et par propagatio, il veut parler du feu. Enfin, il ne le dit pas encore vraiment parce qu'il n'a pas le concept, mais c'est l'idée de nature, du fait qu'on partage la nature d'Adam, on partage une nature viciée. Cette propagation, elle se manifeste par la concupiscence dont parle aussi saint Paul. Donc cette blessure qui est infligée à la nature humaine. Alors la propagatio à cette époque, on pensait qu'elle était liée à la sexualité et que du coup pour y mettre un terme, il fallait s'abstenir d'engendrer. Alors, c'est un peu les théories ancratistes. Il faudra attendre justement d'avoir le concept de nature pour se dire que c'est pas par la transmission d'un élément, enfin on pourrait dire d'ADN en quelque sorte, que le péché se transmet, mais que c'est tout simplement une question de métaphysique en fait. Alors saint Augustin va dire que la grâce est nécessaire pour le salut, et qu'en même temps elle est gratuite. Nécessaire, mais donnée gratuitement. Dieu sauve sans mérite de notre part, mais ne condamne pas sans faute, dit-il. Donc il y a une petite dissymétrie. Hein. Il ne sauve pas sans mérite, il sauve sans mérite de notre part, mais ne condamne pas sans faute. Vous voyez, c'est différent de la double prédestination.
C'est quand même.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il condamne si on fait une faute. Il ne condamne pas s'il n'y a pas de faute. Ça serait la double prédestination stricte qu'on trouve chez Calvin, oui.
C'est un Dieu complètement arbitraire chez Calvin.
C'est-à-dire que le Dieu à partir du XIVe siècle devient complètement arbitraire, oui, parce que comme on finit par douter de la vérité, on va donner le pas à la volonté. Comme on insiste sur la toute puissance divine, cette toute puissance, elle perd sa dimension de sagesse. Et elle va se caractériser dans l'esprit un peu tordu des scolastiques de l'époque par la possibilité de faire tout son contraire. S'il est tout puissant, il peut tout faire. Donc il peut justifier les impies, ce qu'il fait déjà, et condamner les justes. Voilà. Et etc. Dieu, c'est le règne de l'arbitraire divin. Donc c'est aussi la période où en politique on passe au despotisme. Le prince finalement n'a pas d'autre source en lui-même que sa propre volonté. Il n'est plus un sage, mais il n'a pas d'autre autorité que celle qui tire de sa propre volonté. Enfin voilà. Et en fait, à mon avis, ça veut dire qu'on a raté. On a raté une chose importante, c'est l'ordre des processions dans la Trinité. Parce que dans la Trinité, il y a un ordre dans les processions. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui passe en premier et ensuite le Verbe. C'est le Verbe et l'Esprit. Comme disait très bien saint Thomas, l'intelligence puis la volonté. Donc la volonté se règle sur l'intelligence. Donc le bon se règle sur le vrai. Tandis que là, on voudrait nous faire régler le vrai sur le bon. Et du coup, on aboutira aux philosophies du style de Sartre, où on déclare pas bon ce qui est vrai, mais on déclare vrai ce qui est bon, enfin, ce qui m'apparaît bon. mais qui m'apparaît bon de manière arbitraire pour la bonne et simple raison que c'est pas réglé sur la vérité.
C'est une conséquence du nominalisme.
En fait. Oui. C'est fou ce que le nominalisme a fait du mal. Hein.
C'est le nominaliste qui doute de la vérité.
Oui. Oui. Et qui du coup va mettre en avant la volonté par rapport à l'intelligence. Oui. Et c'est alors par exemple dans le courant qui s'appelle Radical Orthodoxy, qui est un courant œcuménique anglo-américain, alors qui est surtout catholique protestant, eh bien, ils insistent beaucoup sur sur la racine nominaliste de beaucoup des erreurs. Erreurs théologiques, politiques, philosophiques, contemporaines. À mon avis, je crois qu'ils n'ont pas tort. Donc, alors Augustin avait